Charles Monrazé, je me trouve rajeuni de une ou deux décennies, je ne sais plus, puisque je vais assister à nouveau à un de vos séminaires, parce qu'il m'intéresserait beaucoup de voir se développer ce qui figure dans ce livre qui m'a beaucoup frappé, les origines sacrées des sciences modernes, dont Serge Moscovici a déjà parlé, mais sur lequel on va s'étendre et aller peut-être plus outre. Alors, comme c'est d'une lecture qui n'est pas simple, j'ai pris la précaution d'essayer d'en résumer l'enjeu en quelques lignes que je vais lire. Et si je me trompe, bien vous me corrigerez, comme naguère. Un petit lot de prescriptions dicte à l'homme comment se comporter, comment dire et comment faire dans un monde subordonné à l'espace et au temps. Charles Morazé part à la recherche de ces structures, de ces figures géométriques, algébriques, qui conditionnent l'espace et sont à l'origine des mythes, des sciences, et permettent d'élaborer une sorte de code universel capable de décrypter l'histoire des sciences, l'histoire des croyances, l'histoire des événements. Petit projet. Par ailleurs, il est des forces extérieures, si on peut dire, qui prédéterminent aussi notre devenir historique et social. Alors, comment se rejoignent ces forces telles que l'attraction, etc., à l'extérieur et les autres, les unes et les autres, et où se trouve à l'intérieur de cette double prison la liberté de l'homme? Voilà un petit peu, si j'ai bien compris, l'enjeu de ce livre. Et c'est autour de cela que va tourner le séminaire.
Charles Morazé, ce que vous appelez code analogique, c'est en fait l'existence d'un ensemble de prescriptions communes qui conditionnent tant l'activité imaginaire que réelle, notamment les productions mathématico-conceptuelles. Mais peut-être pourriez-vous, pour commencer, expliquer le rapport entre mythe et réalité.
Tout d'abord, en ce qui concerne le code analogique, il est très simple. Il ne peut être que simple puisqu'il doit s'appliquer à tout. Il ne peut être qu'élémentaire. Si on veut l'expliquer en détail, il faudra beaucoup trop de temps, mais je vous demanderai, Nathalie Massalère, de préparer un tableau de figures qui paraîtra dans la brochure et qui expliquera les concordances. On observe les concordances entre les manières de construire, où interviennent toujours des tétraèdres. Le tétraèdre est universel dans la nature des constructions. L'analogie se présente ensuite entre le tétraèdre et ce que vous savez bien, je veux dire Chrysippe et ses indémontrables. La même analogie se présente entre Chrysippe et les indémontrables et les axiomes logiques de Loukachevitch. Et enfin, pour bref, il faut quand même faire allusion au fait que les données primordiales du code analogique sont également les données primordiales du code génétique. Mais vous avez raison, l'important est de savoir comment ce code, et c'est ce que nous voudrions faire aujourd'hui, peut s'appliquer aussi bien aux mythes qu'aux sciences. Pour bien poser le problème, il faut faire, je crois, d'abord, d'emblée, la différence entre toutes sortes de types de réalités. Il y a un type de réalité par individu, pratiquement. Enfin, on peut prendre quelques cas significatifs, un peu extrêmes, et c'est par cet extrême que je voudrais commencer. En voici un par exemple. Je laisse tomber le briquet sur la table. En langage vulgaire et vulgairement parlant, dans la vie ordinaire, c'est un briquet qui tombe sur la table. Si on est un peu plus informé, on dit que le briquet est attiré par l'attraction newtonienne, par la gravitation, et qu'il s'arrête parce qu'un objet l'arrête. Mais si on va plus au fond des choses, on s'aperçoit que le briquet, je veux dire que si on se place du point de vue de la physique la plus moderne, la physique telle qu'on la constate dans les grands accélérateurs de particules, les chambres à bulles et de ce qu'on a inventé de mieux depuis, c'est qu'il y a à peine de matière, il n'y a presque pas de matière. Ce briquet est composé presque exclusivement de force. De même, dans la table, il y a à peine de matière, mais un ensemble de forces qui font que la table tient. Autrement dit, le briquet qui tombe sur la table, c'est un ensemble de forces qui rencontre un ensemble de forces, de telle sorte que leur résultante soit nulle. Entre les deux univers, une distance quasiment cosmique. Comment se fait-il que nous vivions dans l'un ou dans l'autre, et comment se fait-il qu'on ait découvert, disons, l'univers des physiciens, l'univers nucléaire, à partir de l'univers vulgaire, l'univers commun? Voilà un premier problème. Il permet de vous dire que cet univers des physiciens, qui nous paraît irréel, et dont nous n'avons pas besoin, en effet, dans la vie commune, cet univers irréel est tout à fait essentiel, parce que sans lui, nous n'aurions pas l'électricité, nous n'aurions naturellement pas l'électricité atomique, ni tout l'ensemble des développements industriels que nous connaissons depuis 2 ou 3 siècles. Donc il est très important de savoir comment s'est développé cet univers. Qu'est-ce qui est mythe par rapport à l'autre? Si vous placez en physicien, c'est le briquet qui est un mythe, puisque ça devrait être un ensemble de particules. Si vous placez du point de vue de l'homme de la rue, de ce que nous sommes là-bas aujourd'hui, ensemble, c'est l'univers des physiciens qui est un mythe. Alors, comment définir le mythe? Eh bien, il faut s'en remettre à Littré, d'abord parce que c'est un positiviste, et surtout parce qu'il n'avait pas l'influence des anthropologues qui ont donné un sens très particulier au mythe, c'est-à-dire l'ont rattaché aux cultures sauvages et en ont fait quelque chose de primitif, disons. En réalité, Littré donne 2 autres définitions du mythe. Ce qui est un fait réel, mais transformé en notion religieuse, ou bien ce qui a été idée, mais qui a permis l'invention d'un fait réel. Ce sont ces 2 aspects que nous allons étudier successivement ce matin.
Quand vous citez Littré, un fait réel transformé en notion religieuse, c'est au mythe de Russe que vous pensez. Dans les origines sacrées, vous avez justement, vous avez livré les rapports entre une arithmétique et une mythologique en montrant comment ce mythe avait fourni aux scribes le calcul fractionnaire et une représentation de l'espace. Pouvez-vous nous l'expliquer?
J'ai pensé à beaucoup d'autres mythes, mais le mythe d'Horus est en effet, comme vous le dites, tout à fait essentiel. D'abord parce qu'il est le plus détaillé, nous le connaissons par le texte des pyramides, parce qu'il est le plus ancien, et qu'on en retrouve les composantes majeures dans toutes les mythologies de Lévi-Strauss. Parce que l'attention a été attirée à partir d'études sur la numération, faites notamment par Geneviève Kittel, dont voici l'ouvrage de 1000 pages. Les Égyptiens n'acceptaient comme réel que des fractions de numérateur 1. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord un cosmos unitaire, et c'est en le divisant qu'on trouvait des nombres. Le signal qu'on aurait pu opérer autrement. Considérer qu'il y a une unité, on en ajoute une autre et on a ainsi tous les nombres. Les Égyptiens raisonnaient à partir de 1. Donc toute la fraction avait un numérateur 1. Et des fractions plus anciennes encore montraient que le seul dénominateur devait être une puissance de 2. Ce qui nous donnait, comme vous l'avez décidé, ce qui nous donnait cette étrange ligne, ici, cette série de fraction qui était représentée, non pas par un demi comme vous l'avez fait, ça c'est la traduction actuelle, des figures singulières qui vont de 1 demi à 1 64e, sont au nombre de 6, et qui quand on les réunit, représentent un œil. Et cet œil, alors on le trouve partout dans la sculpture égyptienne, on la trouve jusque dans l'époque ptolémaïque, et le problème qui se pose à ce moment-là est celui de la signification d'Horus. Disons d'abord pourquoi un œil. Horus était un animal faucon, et le faucon était considéré comme l'oiseau qui avait l'œil le plus perçant, qui voyait le mieux. C'est donc un problème de vision qui se transforme en problème de calcul.
Vous n'expliquez pas le rapport avec les 6 orientations?
Pour mieux le montrer, j'ai fait construire un petit appareil là, qui représente les 6 orientations de l'espace. La gauche, la droite, le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Et quand on regarde de près la figure d'Horus, surtout celle tel que vous l'avez dessiné, on voit qu'on a en effet la gauche et la droite, le centre, le haut, le bas et l'arrière. Donc, il y a une relation entre l'œil, entre un personnage divin et entre les directions de l'espace.
Vous avez souligné aussi un autre aspect de ce mythe de Russe, ce sont les précautions que prend le mythe à ne retenir que quatre personnages.
Ça, c'est une affaire très compliquée. Les textes des pyramides, vous savez, ont donné lieu à de nombreuses discussions. On est en train d'en faire une édition complète, grâce à Leclan. En effet, il est extrêmement singulier de voir à quel point ces textes des pyramides prennent de précautions pour que seulement dans cette affaire, quatre personnages interviennent. Il devrait y en avoir beaucoup plus, au moins cinq, parce que ces personnages sont nés à cause d'une catastrophe cosmique qui a été ressentie par les peuples de l'Euphrate comme par les peuples du Nil. Catastrophe qui a eu pour conséquence de transformer l'année de 360 jours, qui aurait été une année, disons, paradisiaque, parce qu'elle donnait exactement 12 mois de 30 jours, en une année de 365 jours qu'il a bien fallu accepter. Et les 5 jours de plus ont donné lieu à la naissance de 5 personnages qui sont dans l'ordre Osiris, Aroeris, Seth, Isis, et Neftis. Or, le mythe prend toutes sortes de précautions pour dire que Osiris et Isis étaient unis dès le ventre de leur mère. Par conséquent, ils font de Seth un beau-frère. Quant à Neftis, elle disparaît. Nous n'avons plus donc que 4 personnages principaux. Et comme dans les mythes qu'a étudié Lévi-Strauss dans ses mythologiques, nous apercevons que l'histoire commence par une querelle entre beaux-frères, c'est-à-dire entre Seth et Osiris. Seth et Osiris, si vous avez ici, si nous marquons les 4 personnages sur un tétraèdre, voilà un tétraèdre. Si nous marquons les 4 personnages sur un tétraèdre, nous voyons qu'il y a une petite différence entre les rapports de Seth et d'Osiris et de Seth et d'Horus, parce que Seth assassine son frère, son Osiris, ou plutôt son beau-frère, et que par qui s'ensuit que Horus, fils d'Osiris, va déclarer la guerre à Seth, une guerre extrêmement compliquée qui va durer très longtemps, et qui va avoir pour résultat de briser l'œil d'Horus. C'est donc que les fractions égyptiennes, dans la mesure où ces fractions représentent le calcul par excellence en Égypte, ont eu pour cause première dans le cosmos un crime et une guerre. Et voilà pourquoi le scribe Abès, qui développe dans un fameux traité conservé au British Museum de Londres, le scribe Abès peut intituler son traité sur le calcul fractionnaire « Méthode de connaître tous les secrets du monde, même les plus cachés ». Nous nous trouvons, après ce mythe de Russe et beaucoup d'autres semblables, devant le problème de ce qu'est la réalité. Les fractions, ça permet de calculer réellement, d'autant plus que ces fractions originelles étaient utilisées pour calculer les mesures qui étaient dues de toutes sortes de denrées, mais particulièrement de denrées agricoles, naturellement à cette époque, pas seulement d'ailleurs, qui étaient dues au pharaon. Marque entre parenthèses que le pharaon était beaucoup plus qu'un homme ou que ce qu'on appelle un roi. C'était vraiment, il incarnait l'Égypte et la totalité des Égyptiens. Tout ce qui arrivait au pharaon arrivait aux Égyptiens. Alors dans ce cas, nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'un fait et quels sont les rapports entre les faits et les choses. Et j'ai toujours été assez impressionné par une phrase de Wittgenstein qui disait « Le monde n'est pas un ensemble de choses, Le monde est un ensemble de faits. Que voulait-il dire par là, mon cher Peter Stockinger?
Alors, le monde comme un ensemble de choses est d'une certaine façon inaccessible. Ça relève de la tradition kantienne que das Ding an sich n'est pas accessible. Par contre, il y a des façons d'interpréter, de décrire ce monde. Qu'il y a certains types de rationalité, certains types de vision qui, de manière approximative ou non, essaient de rendre compte de ce monde-là. Donc la question est finalement cette rationalité, ces visions, ces théories, ces standards, ces conventions, sont en fait de différents types d'expressions pour désigner toujours le même problème, c'est le problème du fait. C'est donc un fait subjectivement, intersubjectivement reconnu et validé.
J'ai lu tout ce que j'ai pu de Wittgenstein, mais mon cher Peter, tu nous expliques comment il se situe dans la grande lignée de Kant, en définitive. Nous n'arrivons pas à atteindre les choses en soi. Nous n'attendons que leurs résultats, qui sont des faits. Mais moi, je vais tricher maintenant, d'abord parce que beaucoup d'années sont passées depuis les discussions entre Wittgenstein et ses collègues de Cambridge, notamment... Bertrand Russell, qui était à ce moment-là très préoccupé par le problème des fondements des mathématiques, donc pour le genre de passé. Et je dirais que nous pourrions établir une chronologie de l'histoire qui dirait qu'au XVIIIe siècle, on vivait encore dans un monde de choses. Au XIXe siècle, et encore jusqu'à la guerre de 14, c'est-à-dire avant que Wittgenstein soit mobilisé, on était dans un monde de faits historiques, et que depuis cette époque, notamment depuis les physiques modernes, nous vivons dans un monde de forces. Mais pour faire pour établir ce passage, alors nous allons revenir. Un monde de choses, ben ce serait le tétraèdre qui est la plus petite des choses constructibles. Mais le tétraèdre finira par redevenir un système de coordonnées à la fin du XIXe siècle. Mais à l'époque de Descartes, se passe un phénomène curieux, puisque nous allons retrouver les six orientations de l'œil. Mais les six orientations de l'œil portaient chacun un nombre et un seul. Tandis que pour Descartes, chacune des orientations porte toute la série des nombres, soit positif dans plus x, dans plus x, c'est cette direction qu'on donne généralement, soit dans plus y, soit dans plus z, soit négatif dans moins x, moins y et moins z. Quel est l'avantage du système cartésien? Le système cartésien dont Descartes a donné l'idée et a donné la justification, mais qui n'a guère été utilisé que tel que nous le connaissons qu'à la fin du XVIIIe siècle. D'Alembert fait encore une distinction entre les coordonnées rectangles et non-rectangles. C'est qu'on va pouvoir, quand on a une chose, la rapporter à un système de référence. Donnons-en un exemple. Si je dessine un cercle avec un compas, je fais tourner mon compas une fois, j'ai un cercle. Je fais tourner mon compas une deuxième fois, j'ai le même cercle, etc. J'ai toujours qu'un seul cercle. Et c'est, n'est-ce pas, mon cher Dominique Flamand, Euler qui s'est aperçu en essayant de calculer les logarithmes des nombres, des racines des nombres carrés des nombres négatifs, qu'en définitive, ces cercles ne se superposent pas, ne sont pas identiques. Le premier cercle se passe, disons, à 10 heures, le second à 10 heures plus une minute, le troisième à 10 heures plus 3 minutes, bref, le temps intervient de telle sorte qu'à chaque fois que je tourne mon compas, j'ai un nouveau cercle et que je peux avoir une infinité de cercles. Le temps intervient et différencie les cercles. Et on est obligé de les différencier pour comprendre ce que deviennent les mathématiques à l'époque de l'ère. Comment pourrait-on faire intervenir le temps dans ce qui n'avait été jusque-là un pur espace? Eh bien, comparons ce cercle euclidien dont nous parlions tout à l'heure à la formule du cercle telle qu'elle nous est donnée quand on rapporte un cercle, quel qu'il soit, ma montre par exemple, aux coordonnées cartésiennes. Ça nous donne la formule x2 plus y2 égale r2. C'est une formule apparemment très compliquée. Beaucoup plus compliquée en apparence que le cercle lui-même. Mais il a un avantage. Cette formule, pardon, a un avantage. C'est qu'elle relève du discours. Elle s'énonce sur le fil du discours. Donc elle s'énonce sur le fil du temps. Si bien qu'on peut faire dire aux équations, aux formules et aux formulations des quantités de choses que l'œil d'Horus et le nôtre, ne peuvent pas voir. On entre dans un monde invisible et même inimaginable, qui sera notamment le monde des géométries non euclidiennes. Autrement dit, là, et un passage très fort, qu'on avait déjà un peu à l'époque de la très ancienne Égypte, mais qui est le passage de l'image à la parole. Et il se révèle que la parole est capable de trouver, d'approfondir le réel, de sonder le réel, de découvrir dans le non-réel des choses d'une importance essentielle pour ce que nous appelons le réel brutal. C'est comme ça que nous sommes arrivés à un univers de force à partir d'un univers de choses. Et le fait, eh bien, c'est que justement, il y a eu un certain nombre d'inventeurs comme Descartes et aussi, comme beaucoup d'autres, notamment, nous aurons à reparler, notamment Hamilton.
Ce type de passage de figure à des expressions de type linguistique dont vous parlez, n'est-ce pas ce que vous avez désigné comme le passage des structures au système ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que le mythe se présente surtout comme des figures. Il peut avoir des récits, mais c'est des récits qui commandent des figures. Tandis qu'évidemment, les ouvrages de mathématiques du 19e siècle finissent par perdre complètement les figures. Ce ne sont plus que des formules écrites. Je parlerai plutôt du passage du mythe aux algèbres. Et alors là, du point de vue, il faut bien faire une différence entre l'espace tel qu'il est vu par Horus et l'espace tel qu'il est systématisé par Descartes. Si vous voulez montrer qu'il y a une différence entre l'amour d'Osiris pour Isis et la haine de Seth pour Osiris, il faut que vous modifiez les positions angulaires, les dièdres de ce tétraèdre. Donc vous allez vous servir d'angle. On pourrait à la rigueur se servir de longueur en disant la distance entre Seth et Osiris est très longue, et la distance entre Seth et Isis est très courte. Mais ça n'a pas de sens. Où commence le long, où commence le court, où commence le bien, où commence le mal. On ne pourra faire de distinction de ce genre, du genre oui-non, du genre bien-mal, quand on disposera des nombres, des quantités négatives. Or, on n'en dispose pas à l'époque d'Horus. À l'époque de Descartes, on commence d'en disposer, encore que Descartes appelle les nombres négatifs les nombres faux. Donc, tant qu'on est dans un système antérieur à l'apparition des nombres négatifs, on ne peut compter, si on considère des figures de ce genre, que sur des variations angulaires obtus, signifiant mauvais parce que c'est écarté d'eux, et aigus, signifiant bon parce que c'est dans le même canton. Donc, le passage, au point de vue des structures au système, c'est le passage d'un monde considéré angulairement, comme le fait d'ailleurs l'œil d'Horus. L'œil d'Horus regarde des angles, il regarde l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, avec un seul nom, encore une fois, par orientation, à un monde regardé par des longueurs.
Vous nous montrez le passage de la structure au système, ou leurs différences et ressemblances. Je n'ai pas bien vu ni compris le rapport que vous faites entre les angles d'une part, et les problèmes de la mythologie de l'autre.
C'est très simple. Les problèmes de la mythologie sont liés à des rapports de personnages en général. Pour quitter Horus, prenons le système de parenté de Lévi-Strauss. Si vous avez mari, femme, frère de la femme et enfant. Si vous y ajoutez la recherche des origines de l'interdiction de l'inceste, vous allez avoir entre mari et femme conjugalité et entre femme et frère de la femme consanguinité. Vous aurez donc un angle obtus. Le système angulaire se prête fort bien à cette présentation. J'ajoute que, déjà pour le paradis terrestre, ou plutôt la suite du paradis terrestre, c'est l'histoire de Caïn et d'Abel, les querelles entre frères ou beaux-frères sont éternelles, et une des interprétations islamiques veut d'ailleurs que Abel soit le beau-frère, et non pas le frère de Caïn. Et les mythologiques de Lévi-Strauss, la plupart des mythes commencent par « querelle entre beaux-frères ». Si vous avez une querelle entre beaux-frères, ça relève des conditions de construction du triède. Pour qu'il y ait ici, s'il y a ici interdiction de l'inceste, c'est-à-dire si cet angle est obtus, puisque nous avons assimilé l'obtus à l'interdiction, il est nécessaire que le dièdre opposé, c'est une nécessité mathématique, géométrique, soit obtus. Par conséquent, les querelles entre beaux-frères qui interviennent dans le mythe d'Horus ou dans les mythologies de Lévi-Strauss sont nécessaires. Bien. On pourrait développer, naturellement, d'une façon plus strictement logique, mais je crois que c'est un fait. Dans le passage de système mesuré par des angles, au système qui, lui, tient compte des longueurs et aussi des angles, naturellement, enfin, principalement des longueurs, c'est la grande nouveauté, Descartes dit arbitrairement, je décide que tel segment de longueur vaut 1. Il le décide arbitrairement. C'est une décision, disons, humaniste. Et bien, le passage là, est un constat historique.
Ce passage des structures au système a permis à la science des progrès considérables. Alors je crois qu'une de vos grandes idées est justement que vous avez montré que chaque conquête scientifique dépendait de conditions socio-culturelles ou, je sais que vous aimez cette expression, socio-mythologiques. Et vous avez plus particulièrement montré la part d'influence exercée par le capitalisme sur les innovations algébriques. Pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Eh bien, ça alors, nous pourrons en parler longuement, mais enfin, on va essayer de résumer à l'essentiel. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des nombres négatifs. On a jusqu'au 15e, 16e, même 17e siècle, pensé que ces nombres négatifs n'existaient pas. Et Descartes les appelle, je crois que j'ai déjà dit, c'est très important, Descartes les appelle des nombres faux. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature de négatif ? Rien. Dans la nature, il n'y a rien. Mais à partir du XVe siècle, intervient un mode de gestion qui prend une ampleur colossale grâce aux arrivées d'or d'Amérique après les conquêtes océaniques. Et alors se développe ce qu'on appelle des firmes, qui sont des personnalités abstraites, on dit maintenant des personnalités morales. Ces firmes doivent dresser des bilans. Ces firmes ont un capital. Ce capital est versé par des tiers. Et par conséquent, ce capital est dû par la firme au tiers, il est donc inscrit dans les firmes au négatif. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, on dit qu'un capitaliste est un homme riche. Non. La firme capitaliste importante, la grosse firme capitaliste, c'est la firme qui a beaucoup de dettes, parce qu'elle a un gros capital, et que le capital est une dette. Donc, il a fallu que grâce notamment aux grandes découvertes, aux afflux d'or d'Amérique, etc., et à de nouvelles conceptions de la vie, du commerce et tout ce que vous voudrez, et que Dieu soit un peu laissé de côté, et que les firmes se développent, et tout d'un coup, inconsciemment probablement, encore que les comptables aient joué un grand rôle dans cette découverte, inconsciemment, on s'est aperçu que les quantités négatives non seulement existaient, mais qu'elles étaient créatrices, puisque le capital est créateur. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que ma réponse vous satisfait ?
Tout à fait, oui.
Eh bien, nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons non seulement penser au capital des firmes, capitaliste. Je vous dis entre parenthèses que Marx est complètement trompé quand il a parlé de matérialisme historique, parce que le capital est une entité complètement abstraite, puisqu'elle est négative. Nous allons maintenant tenter une aventure hardie. Et ça, j'aimerais bien que quelqu'un puisse... Ou bien non, nous avons déjà un tableau tout fait. Nous allons le placer à la fin du 19e siècle, du 17e siècle, pardon. Newton va devenir directeur de la monnaie et un certain William Paterson propose à la nouvelle monarchie anglaise, après la révolution de 88, une banque, qui ça s'appelle la Banque de Londres, on l'appelle aujourd'hui la vieille dame de Londres, une banque d'émission. Qu'est-ce que c'est qu'une banque d'émission ? D'abord, plusieurs personnages riches, nobles ou pas nobles, peu importe, enfin disons l'aristocratie de la marchandise en Angleterre, se réunissent et apportent énormément d'argent à la banque. Donc la banque le doit. Un capital. Cette banque va prêter cet argent métallique, et sous forme d'or en général, et va le prêter au roi qui en a besoin pour se battre contre Louis XIV. La Banque de Londres jouera le même rôle à l'époque de William Pitt contre Napoléon. Elle va lui apporter pour qu'il puisse payer les soldats, parce que les soldats, ça vient du mot sou, soldat est bien payé en numéraire, il ne voudrait pas être payé en papier. Donc on va l'aider. Mais elle reçoit en échange le monopole d'émettre des billets. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi un billet de 100 francs vaut 100 francs ?
Non.
C'est un bout de papier. Si on le prenait pour sa valeur réelle, le bout de papier vaudrait quelques centimes. Je vais le sortir de ma poche. Et voilà le billet de 100 francs. Eh bien, vous avez au 18e siècle et au 19e siècle, les gens qui veulent payer en or, rassurez-vous, ce ne sont pas des pièces d'or, ce sont des pièces de 20 francs. Mais en voilà 5, ça ferait donc 5 francs, 100 francs en or. Et les petites gens, ou les gens qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas dans, n'ont pas compris, qui n'ont pas confiance dans le système, veulent être payés en monnaie sonnante et trébuchante, comme on disait. Mais les gens très avertis savent qu'ils ont tout bénéfice à être en parfait accord avec le roi, avec la banque. Et d'ailleurs, la banque choisit ses clients. La banque d'Angleterre choisit ses clients. Elle ne délivre que des coupures très grosses, de façon à ce que ça ne se répande pas dans le public. Et elle vérifie ce qui se passe parmi ses clients. L'erreur qu'a commise Law, c'est qu'il n'a pas créé au préalable une solidarité entre les riches marchands et le roi. La banque de Londres, c'est vous qui me l'avez rappelé, était de 1794, la banque, disons, 1694, pardon, la banque de Paterson. Mais il y avait en 1688 une condition au changement de monarchie qui a appelé Guillaume d'Orange au pouvoir, c'est que la politique anglaise serait contrôlée par un board of trade, un conseil du commerce. Et il y a une telle alliance entre le gouvernement et les gros marchands, la confiance est telle que quand un ministre quand un personnage important devient ministre, son budget est inscrit à un compte à la Banque de Londres, et ce compte, c'est son compte personnel. Un ministre, le ministre de la Marine par exemple, met à son compte personnel le budget du ministère de la Marine. C'est incroyable. Mais ça suppose une confiance totale. Quand cette confiance totale n'existe pas, alors il se produit ce qui s'est produit à Lens. C'est-à-dire qu'un beau jour, quelqu'un dit « Ah ben non, je veux changer mon billet en monnaie, puis c'est fini. » Tandis que quand la confiance est totale, le porteur de billet garde le billet. Ça a été valable d'abord pour de très gros billets, puis on voit qu'au cours du 19e siècle, on a des billets de plus en plus petits. On établit, le cas échéant, le cours forcé. Mais alors attention, si vous établissez le cours forcé, comme ça existait dans la Russie soviétique par exemple, votre monnaie n'est plus convertible dans les autres monnaies. Et ainsi... Le billet garde, il ne garde pas sa valeur or, mais il garde la valeur nominale qui est inscrite dessus. Ça s'est fait progressivement et c'est une question de confiance. Cette confiance est très importante parce qu'elle permet à la banque qui a 100 francs en monnaie de sortir 200 francs en billets puisqu'on ne viendra pas, personne ne viendra tout le monde ne viendra pas en même temps demander le remboursement de ses 100 francs. Nous pouvons donc transcrire en formule ce phénomène de la multiplication du crédit en écrivant, si par exemple il y a 3 fois plus de billets qu'il n'y avait de monnaie métallique, non pas 1 multiplié par 3, mais 1 multiplié par 1 plus 2, parce qu'il y a une différence entre le premier 1 de la parenthèse, qui est effectivement remboursable en or, et le 2, qui représente un pur crédit. Il ne doit surtout pas être présenté au guichet de la banque, sinon le système s'écroulerait. Le système se développe, il y a plusieurs banques d'émission en Angleterre, avant le monopole d'émission, passe un siècle, et l'Angleterre va donner l'exemple d'une autre institution bancaire, que nous appelons aujourd'hui banque de dépôt, comptoir d'escompte, qui sont les banques que nous trouvons maintenant à tous les coins de rue et qui ne sont pas la Banque de France. Cette nouvelle institution bancaire, elle reçoit des billets. On ne lui porte pas d'heure, mais bon. Elle reçoit des billets, en inscrit le montant sur un registre, sur un compte, et vous donne le droit d'émettre des chèques, de signer des chèques. Une fois de plus, se produit le même phénomène. C'est comme tout le monde ne réclame pas son argent en même temps, le comptoir d'escompte, ou en Angleterre la Bank and Westminster Bank, peut permettre d'émettre plus de chèques qu'on lui a donné de billets. C'est de nouveau un deuxième type de crédit qui est écrit ici, qui nous donne la première formule. La première formule nous donnait des billets, c'était 1 multiplié par 1 sur B, et ça donnait des billets. La deuxième formule repart des billets et nous donne billets multipliés par 1 plus C, qui est encore du crédit. Si nous développons, nous avons 1 multiplié par 1 plus B plus C plus CB. Voilà comment fonctionne le crédit. On peut donner un sens à chacune de ces lettres. B, c'est ce qui est garanti par la banque d'émission. C, c'est ce qui représente la confiance dans le comptoir d'escompte. Et CB, c'est le virement de compte à compte. C'est pourquoi Nathalie Bassaler a écrit A plus B plus C plus V. Et maintenant, je me tourne vers Dominique Flamand. Et je dis, c'est à peu près le moment, tout ça se passe entre 1830 et 1850, à peu près le moment où Hamilton imagine les quaternions qui s'écrivent 1 plus I plus J plus K. Avec cette remarquable particularité que I multiplié par J égale K, de la même façon que B multiplié par C égale CB.
Oui, mais est-ce qu'il ne s'agit pas... disons que la correspondance me paraît un peu trop juste pour être honnête. Par exemple, lorsqu'on considère le quaternion que vous avez indiqué en bas, 1 plus I plus J plus K, chaque unité I, enfin IJK, ont pour carré, a pour carré, moins 1. Ce n'est pas le cas, apparemment, dans la formule que vous avez mis au-dessus. D'autre part, est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse qu'il faut voir? C'est-à-dire qu'on a un univers où l'algébraisation, ou plutôt la naissance d'un calcul abstrait, de nature, bon, d'abord algébrique, va avoir une influence assez importante sur la société.
Très bonne question. Elle pourrait être encore plus sévère, parce qu'elle est vraiment formulée de façon extrêmement aimable. Car si on peut écrire, comme on l'a fait ici, B multiplié par C égale CB, je ne pourrais pas écrire CB multiplié par C égale B. Donc, ça, il n'y a pas analogie. Il y a une espèce de vague ressemblance. Quant à croire, mon cher Dominique, que ce serait l'univers de ce que Hamilton appelle les quaternions, et qu'il avait d'abord pensé appeler les grammarythmes, ceci pour intéresser Peter Stockinger et ses linguistes. Il avait appelé ça d'abord des grammarythmes. Penser que c'est la connaissance des quaternions, ou de cette forme d'algèbre qui a développé le système bancaire, alors non, évidemment pas, ce serait donné attribué aux banquiers, aux hommes d'affaires, et au marché financier, au marché monétaire, une connaissance que naturellement ils n'avaient pas. Comment l'auraient-ils, eux qui étaient surtout dans les affaires, alors que Marx ne l'a même pas soupçonné? Marx n'a pas soupçonné l'existence des racines d'hommes négatifs et des quaterniens. Donc, c'est bien dans un sens et dans un seul que ça marche. Et non pas que la société fournisse un modèle exact à un algébriste comme Romuald ou William Hamilton, mais simplement l'expérience sociale, comme dans le cas des nombres négatifs, donne l'idée d'une possibilité qui repose, qui met en cause des sentiments, le sentiment du crédit. On fait crédit. Ah. Donc, elle ouvre des possibilités à des gens qui, par ailleurs, raisonnent exclusivement en algébriste, sans faire absolument intervenir le moindre du monde, le marché monétaire. Mais il existe quelque chose qui est une réalité, puisque c'est grâce tout de même à cette multiplication du crédit que les affaires vont prendre un développement énorme. C'est là intervient ce que Henri Poincaré, un des premiers, pas tout à fait le seul, pas tout à fait le premier, mais un des premiers, Jacques Annemarre ensuite, ont appelé l'inconscient. La société agit sur l'inconscient des savants, et c'est dans l'inconscient des savants que se font les découvertes. La conscience des savants ne fait que reconnaître ce qui s'est passé dans leur inconscient. C'est un jeu extrêmement compliqué, qui, à mon avis, devrait être une des grandes préoccupations des historiens actuels, savoir comment il se passe des choses dans la société qui agissent, disons, pour parler grossièrement sur le surmoi. Ce surmoi agit sur des gens qui, par ailleurs, sont attachés à des calculs algébriques extrêmement particuliers, puis ils disent, tiens, mais quelque chose est possible auquel nous n'avions pas pensé. Donc, la remarque est extrêmement juste. Il n'y a pas d'analogie entre les formules écrites sur cette planche. Mais il y a une ressemblance telle qu'elle facilite le travail de l'algébrique. Elle le facilite, au moins l'admission, si elle ne facilite pas l'invention. Mais elle facilite l'invention, si on en croit les grands savants, notamment Einstein aussi, qui a été mêlé de très près aux études de Hadamard, mais ça la facilite l'invention. Voilà quel est le rôle de la société. Il crée un milieu de crédit, ou disons aussi bien un milieu de mythe, parce que ça c'est un mythe, ce n'est pas une réalité. C'est grâce à un mythe que nous pensons que ça vous s'en prend et que c'est admis partout. La société crée un ensemble de pensées, de sentiments, tels que, alors, chez les algébristes, ce qui paraissait impossible devient parfaitement possible, qu'ils osent l'écrire. Alors, nous avons donné un sens aux différentes lettres qui exprimaient des crédits dans le système monétaire capitaliste. Mais, mon cher Dominique, tu devrais nous expliquer maintenant ce que signifient ces lettres singulières que nous avons écrites sous la forme IJK ajouté à 1. Alors, on a commencé par I, ou plus exactement, on a commencé par trouver les racines négatives, des racines carrées de nombres négatifs. Écris-le pour qu'on y voit bien clair. Racine carrée de nombre négatif. Si on parle comme Descartes, ça veut dire racine impossible de nombre faux. Mais enfin, ça permettait de résoudre des équations, du troisième et du deuxième degré. Par conséquent, on l'a gardé. Puis on s'est aperçu que c'était plus simple d'écrire n racine de moins 1. Mais on ne savait toujours pas ce que c'était que racine de moins 1. On a préféré mettre un symbole et ça nous donne ni. I, quand on a voulu le représenter sous une forme géométrique, ça a pris l'allure d'un vecteur. Le mot vecteur a été introduit par l'inventeur des quaternions, par Romuald Hamilton. Il existait avant, naturellement, mais dans un sens tout à fait différent. Le mot vecteur, dans son sens actuel, a été introduit par Hamilton. Bien. Nous avons donc le vecteur I. Et dans les réflexions d'Hamilton qui ont duré très longtemps, il s'est aperçu que, pour être complet, ce qu'il va appeler d'abord des gabarits puis des quaternions, devrait faire appel à plusieurs types de i. Et donc, il a ajouté J et K. Qui sont de la même nature que I, c'est-à-dire qui sont des racines de moins 1, ou plus exactement, pour respecter le mathématicien Dominique Flamand, tel que I2 égale J2 égale K2 égale JK égale moins 1. Nous avons donc maintenant trois unités vectorielles. Nous avons donc non plus deux, mais trois unités vectorielles. Mais ce qu'il y a de singulier dans toute cette aventure, c'est que dès le XVIe siècle, un personnage relativement obscur, du nom de Bombelli, qui était un ingénieur et qui, à mes yeux, s'est signalé surtout parce que le pont qu'il a construit sur le Tibre s'est écroulé immédiatement. Mais il se trouve qu'il a énoncé exactement la multiplication des nombres, des racines carrées et des nombres négatifs, ou plus exactement la multiplication des racines impossibles des nombres faux. Alors il a employé les expressions italiennes un peu biscornues, telles que, on ne va pas les écrire toutes, più di meno,
MDM. Ce qui veut dire littéralement plus de moins et moins de moins.
Plus de moins multiplié par moins de moins fait plus de. Fait plus de moins multiplié par plus de moins fait plus de moins. Et plus de moins multiplié par moins de moins fait moins de moins, etc. Mais nous n'allons pas tout écrire ça. Simplement, je vous le signale, ce que je vous signale à propos de l'inconscient dont nous parlions tout à l'heure, c'est que le XVIe siècle découvre tout de suite ce qu'on mettra ensuite 150 ans à justifier, quand on se sera vraiment familiarisé avec ces chiffres, ces nombres bizarres qui sont représentés par des lettres telles que IJK. Permet de vous signaler un autre point. C'est qu'alors que les nombres positifs, donc la racine 1 positive, que le nombre, pardon, l'unité 1 positive n'a qu'une seule racine, les nombres négatifs sont beaucoup plus féconds, ils ont autant de racines qu'on veut, notamment 3. Mais contentons-nous du cas où Hamilton en retient 3. Nous avons donc 1, si tu veux bien écrire, on va écrire de nouveau le quaternion, 1 plus I plus J plus K. Je vous ai dit que, tout à l'heure, je vous disais qu'après tout, nous revenons à notre œil d'Horus, puisque nous pouvons écrire I moins I ici, par exemple, J moins J ici, et K moins K ici, mais nous n'avons plus de place pour un. Il faut donc faire intervenir une quatrième dimension. Quatrième dimension que Hamilton considère comme étant le temps, mais ces quatrièmes dimensions vont de soi si, dans l'imagination, sur chaque face du tétraèdre, nous posons une perpendiculaire, nous dressons une perpendiculaire, nous en avons quatre, nous supposons donc ces quatre perpendiculaires à des faces ne sont pas perpendiculaires à telles, entre elles dans cette figure-là, dans ce modèle-là. Mais si nous traduisons en imagination, de toute façon dans le pur imaginaire, que tous les éléments de ce tétraèdre sont des éléments droits, orthogonaux, alors nous avons quatre droites orthogonales entre elles. Nous entrons progressivement dans ce qui va devenir l'espace plus-temps, puis l'espace-temps d'Einstein. C'est donc un moment extrêmement important où on voit que la monnaie capitaliste introduit une facilité, facilite une opération, mais après l'opération se développe toute seule et elle a des conséquences considérables, mais elle nous renvoie encore à une figure tétraédrique devenue complètement imaginaire, puisque ce qui n'est pas possible en géométrie euclidienne doit être supposé pour que les perpendiculaires à ces quatre faces, que Geneviève Guittel, c'est perpendiculaire, cet ensemble perpendiculaire que Geneviève Guittel appelle des tétracantes, représente exactement le quaternion. Comme ces vecteurs sont le meilleur moyen de calculer des forces, nous voyons maintenant confrontés avec ce que c'est qu'une force. Qu'est-ce que c'est qu'une force ? D'où nous vient cette notion de force ?
Si j'ai bien compris, Dominique Flamand, on est passé d'un signe, Piu di Meno, à une opération impossible, puis à un nombre, à un vecteur, ce qui nous introduit au problème des forces.
Qu'est-ce que c'est qu'une force ? La première fois qu'on en a vraiment préoccupé de la question de façon scientifique, c'est à la fin du XVIe siècle, quand on laissait tomber une pierre, on dit « pourquoi tombe-t-elle ? » Aristote disait qu'elle tombe parce qu'elle rejoint son lieu naturel. Le lieu naturel de la pierre étant par terre, elle tombe. C'est à partir de Galilée, surtout avec Newton, qu'on se dit « mais c'est curieux ça. Qu'est-ce qui attire la pierre vers le sol ?» On raconte l'histoire de la pomme, qu'est-ce qui attire la pomme vers le sol ? Et on s'est posé le problème de l'action à distance. Nous avons dit tout au début que la table, en réalité, ce n'était pas un ensemble de choses, c'était un ensemble de forces. C'est un vide dans lequel, traversé par des forces. Donc ce sont des actions à distance. Qu'est-ce que c'est que l'action à distance ? Et Newton, en cherchant un mot, a trouvé le mot attraction. Il l'a trouvé dans des ouvrages datant de Paracelse, du Faust, du vrai, pas celui que Goethe a repris, enfin pas du Faust légendaire, mais du vrai, parce qu'il existait. Il l'a retrouvé également dans la suite de tous les écrits qui avaient été qui consignaient pendant tout le Moyen-Âge les expériences faites, notamment dans les couvents, et plus précisément les couvents franciscains, pour fabriquer des esprits ou des alcools. Quand la corporation sera constituée à la fin du XVIIe siècle des distillateurs, elle s'appellera Corporation du Saint-Esprit. C'est la force du Saint-Esprit. Mais dans l'imagerie du XVe, XVIe siècle, l'action à distance, Goethe le reprendra dans un de ses romans et le reprend naturellement dans Renfrosch, la seule action à distance que l'on connaisse, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui un coup de foudre. Une femme et un homme se trouvent en présence et sont brusquement attirés l'un vers l'autre. Ça, c'est une action à distance. Et c'est la seule que l'on connaît, et c'est ça, l'attraction. L'attraction a d'abord, mon cher Peter Stockinger, désigné une attraction d'ordre sentimental. Et c'est devenu ensuite une force physique qui fabrique la table. Comment est-on passé du sentimental au physique ? Eh bien, les textes sont extrêmement nombreux. Ils ont été étudiés pour la première fois par Berthelot, sont extrêmement difficiles à interpréter. Suzanne Koldor y a passé sa vie et je crains qu'on ne lui doive une mort précoce tellement elle s'est donné de mal. Mais nous allons pouvoir le suivre grâce aux peintures. À cet égard, le mythe qui a été devenu de plus en plus populaire dans l'époque grecque, puis surtout l'époque romaine, c'est le mythe de Persée. C'est un mythe extrêmement long, mais l'épisode qu'on retient surtout, c'est celui de Persée délivrant de Romaine, laquelle est menacée par un dragon. Histoire très compliquée de savoir pourquoi elle est menacée par un dragon. En fait, le dragon menaçait une ville, et la ville a pactisé avec le dragon en disant, si la fille du roi m'est donnée, je m'en contenterai et je laisserai la ville tranquille. Je ne continuerai pas de la détruire. Arrive Persée, qui tue le dragon, délivre Andromède. Puis le mythe continue, c'est encore très compliqué. Mais enfin, il finit par l'épouser. Ils sont heureux, ils ont de nombreux enfants. Et par conséquent, la ville, qui était la cité de Cassiopée, à Philippe, a duré. Et comme je vous ai dit à un moment que les cités, les populations et les cités s'identifiaient à leur roi, du moment que le roi a une descendance, la ville a une descendance, donc la vie continue, la société continue. Une des représentations les plus significatives du bas empire romain, c'est un bas-relief du Capitole où on voit un monsieur qui tend la main à une dame, la fait descendre du rocher où elle était enchaînée. Il y a une tête du dragon en dessous. Et ils vont être promis à un heureux avenir. Une fresque de Pompéi, quelque chose de plus intéressant. Parce qu'elle montre que Persée tient une tête. Cette tête, c'est la tête de Méduse. Dans un épisode précédent, Persée a tué Méduse, et la tête de Méduse, même coupée du corps, avait la propriété de méduser, comme on dit, ou de pétrifier les adversaires. Ce qui fait que le combat avec le dragon, on s'en trouve facilité. Voilà donc une série assez claire où on a la cité, le dragon, l'homme et la femme. Nous passons à l'ère constantinienne, c'est-à-dire que l'Europe devient chrétienne. Alors, singulière histoire, la ville disparaît, mais nous gardons le dragon, le héros qui devient Saint-Georges, et la femme, mais la femme tient le dragon en laisse. Elle tient le dragon par un licol. C'était tellement authentiquement constantinien que ça s'est conservé dans toutes les icônes byzantines jusqu'à nos jours, jusqu'à les iconographes de nos jours, continuent de garder. Et là, vous voyez, vous avez bien toujours la femme, la ville, l'homme et le dragon, mais il y a toujours la ficelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme n'est plus une princesse ordinaire. La femme, c'est en réalité Sainte Sophie. Constantin avait besoin de remplacer Persée par Saint-Georges. Il avait besoin de remplacer, ou plutôt Saint-Augustin aura besoin de remplacer la cité des hommes par la cité de Dieu. Et les significations sont inversées, parce que Saint-Georges est un martyr, et s'il tue le dragon, c'est en étant tué par lui. Toutes les significations sont inversées. Je vous ferai remarquer que nous avons quatre personnages, que nous pouvons de nouveau les inscrire là-dessus, et que si nous inversons les significations, il faut référer au tétracante, c'est-à-dire au tétracante qui convient à donner une image des quaternions. Mais ce n'est pas encore si simple, car il y a le terrible problème du dragon. Il y a la force d'attraction qu'est le dragon. Mais si mon briquet ne tombe pas, c'est qu'il y a une force de répulsion qui le retient. Et le dragon a fini par signifier, entre des époques très lointaines, puisque l'auteur de ce grand livre sur le mythe de Persée fait remonter l'âge du dragon au dieu Seth des Égyptiens. Histoire extrêmement longue, par conséquent, je me permets en parenthèse d'ajouter, pour encore embellir l'affaire, c'est que Persée est le fils de Danaé, laquelle a été fécondée par Jupiter, prenant la forme d'une pluie d'or. Par conséquent, il y avait une espèce de vocation depuis longtemps, que reconnaît Freud d'ailleurs, entre l'amour, l'argent, etc. Bien. Mais le dragon, le dragon, c'est la force contraire, c'est la force qui s'oppose, c'est la force qui s'oppose à tout. Et d'ailleurs, c'est parfaitement net, pas du tout dans les dragons chinois, mais dans les dragons occidentaux, c'est parfaitement net qu'il appartient aux quatre éléments, parce qu'il crache le feu, c'est comme ça qu'il détruit la ville, il vit dans l'eau, il peut voler, il a des ailes, c'est donc un animal de l'air, et il peut marcher sur terre. Il représente les quatre éléments. Mais il est l'antinature. Nous avions donc, à l'époque de Paracelse, à l'époque du premier Faust, et on retrouve l'enfauste naturellement, toute une symbolisation qui faisait du dragon les forces négatives. Telles quelles, c'était inutilisable. Mais à partir du moment où on aura les normes négatives, le dragon n'aura plus de raison d'être. Vous savez, pour les chimistes de l'ancienne époque, de l'époque chrétienne, qui cherchaient des esprits, qui cherchaient des essences, le dragon était quelque chose de très important. Il fallait, pour qu'une réaction chimique se produise de façon heureuse, qu'est-ce que ça veut dire de façon heureuse? C'est-à-dire que de métaux vils, ou de données de corps, car le mot est médiéval, le nom chrétien, de corps chimique, on a gardé le nom de corps, ce qui renvoie toujours à l'amour, pour que deux corps chimiques en fécondent, se fécondent en troisième, qui soit plus pur, il fallait tuer le dragon. Et nous avons là une image qui naturellement a fait l'enthousiasme de Carl Jung, qui a récolté une énorme série d'images du même type qui sont conservées au musée de Zurich. Un homme et une femme se mettant ensemble pour tuer le dragon. C'est que quand une expérience chimique dans l'ancien temps ne réussissait pas, le plus grave c'était quand l'alambic explosait, ou quand le creuset explosait. Il y avait une disparition de matière, une disparition apparente, en réalité la matière se dispersait, et un formidable dégagement de chaleur. Si bien que le dragon est beaucoup plus important qu'une simple figure emblématique, il est à l'origine, on peut le considérer comme le précurseur des normes négatives, de la chaleur qui s'ajoute aux réactions chimiques, et en définitive, de la transformation de la matière en énergie. À cause de lui, la transformation de la matière en énergie. Voilà ce que je voulais vous dire en vous rappelant qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas ce que c'est que l'action à distance. On la calcule, on fait toutes sortes de choses avec, on fait des appareils de toutes sortes, on fait sauter l'atome, mais on ne sait toujours pas ce qu'est l'action à distance. Et on n'a qu'une seule référence qui est anthropologique, qui est ce que j'appelais tout à l'heure, de façon un peu brutale, le coup de foudre entre un homme et une femme. Mais pour que l'homme mérite la femme, il faut qu'il fasse un acte de valeur, que notamment il détruise le dragon. Je dirais de façon beaucoup plus triviale en remontant au temps préhistorique, que les hommes ont dû être frappés sur le fait que pour une femme soit féconde, il faut verser le sang de l'hymen, le sang menstruel. Voilà ce que c'est qu'une force. C'est ça que nous avons oublié aujourd'hui. Quand nous parlons de force, quand nous utilisons de force, des forces, comme si c'était quelque chose de purement physique, de purement matériel. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça met en cause la vie et les sociétés humaines. Alors, mon cher Ferrand, vous parliez tout à l'heure de la place de la liberté dans tout ça. La liberté existe. Elle existe dans la mesure, par exemple, où on résiste à un amour. Elle existe dans la mesure où on choisit sa compagne ou son compagnon. Mais les structures dont je vous parlais aussi, elles sont toujours constantes. Puisque quand vous parlez ces deux formes d'amour, l'amour de percer pour une femme bien vivante, et en plus, c'est-à-dire du bien, puisqu'elle est la fille du roi. Et quand vous parlez de l'amour de Saint-Georges, c'est l'amour pour Sainte-Sophie, c'est l'amour pour le ciel, c'est l'amour pour Dieu, c'est donc l'amour sacré. Vous avez à la fois le tétraèdre et le tétracorde. C'est-à-dire que vous avez l'objet qu'on porte dans l'espace et le système de référence le plus apte, à condition qu'on le considère imaginairement, comme une adjonction des trois dimensions de l'espace et d'une quatrième dimension qui est celle du temps, vous avez le système vectoriel. Les origines, exactement, du système vectoriel. Donc, liberté sans doute, mais toujours conditionnée par ce que Nathalie Bassalaire et moi-même, d'ailleurs, avant que j'ai appelé peut-être un peu imprudemment, le code, c'est beaucoup plus que ça, c'est l'ensemble des prescriptions qui font qu'un langage est compréhensible. Ensemble des prescriptions qui, pour en revenir à un témoignage antique, ensemble des prescriptions qui a été découvert par les stoïciens et notamment par Chrysippe.
La liberté dépendant d'un acte de foi, des allégories suggèrent des réponses qu'aucune individuation ne saurait imposer aux autres. Il se trouve que notre billet de 100 francs rend hommage à Eugène Delacroix et à sa liberté guidant le peuple. La figure féminine franchissant une barricade de 1830 et l'hypostase d'un idéal, comme Sainte Sophie en avait été une de la Sainte Trinité. Le combattant en gibus, en fait de la croix lui-même, en devient une sorte de Saint-Georges, libérant Paris au risque de périr sous les coups des dragons commandés par le maréchal Marmont. Louis-Philippe installé, ni lui ni ceux qui le soutiennent n'apprécient plus les barricades. Delacroix retire sa grande toile des Simèzes et peint d'autres sujets, l'un notamment plus intimiste, que son journal affirme être un Saint-Georges, bien que l'Andromède enchaîné en face manifestement à Persée, fils de Zeus, ayant fécondé Danaé en prenant la forme d'une pluie d'or. Les rapports entre acteurs s'en trouvent inversés. Delacroix, témoin des sorts bourgeois, illustre une transformation qu'il nous revient de décoder. Il offre à nos regards un combat pour un idéal, mais au-dessous de son moi s'affirme, en dépit de ce qu'il veut et de ce qu'il écrit, l'immanente et incontournable confrontation entre Eros et Thanatos.
Je crois comprendre que l'idéal scientifique, en fait, est avant tout la prédiction ou encore l'explication des phénomènes. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est comme donc, pouvoir répondre à des champs de questions comme comment ça se fait que, ou pourquoi telle ou telle chose arrive, enfin, ou pourquoi telle ou telle chose se comporte de telle ou telle façon. Hein, par exemple, en linguistique, on sait qu'il y a 3000, 4000 langues vivantes, et donc il y a une très grande diversité des langues. En même temps, on sait aussi qu'il y a des grammaires qui se ressemblent beaucoup. Donc il y a très peu de grammaires, très peu de classes de grammaires. Donc une question ensuite se pose, mais comment ça se fait qu'il y a d'une part une diversité des langues et d'autre part très peu de grammaires, hein? Ou bien il y a énormément des mythes, et on sait en même temps que ces mythes se ressemblent sur un certain niveau narratif, hein? Ce qu'on appelle un canon narratif. Alors donc, c'est ça l'idéal scientifique, de pouvoir répondre à des questions du type comment ça se fait, pourquoi, etc. Donc ce qu'on appelle l'explication. Il faut comprendre que pour arriver à une explication, il faut naturellement décrire ou savoir décrire les objets. C'est donc, autrement dit, il faut savoir donner une certaine identité à cet objet et ensuite déterminer les caractéristiques de cet objet, c'est-à-dire sa structure, son organisation, son comportement, les contraintes qui pèsent sur cet objet, soit objet physique, objet historique, objet linguistique, peu importe, c'est relativement global, mais en général comme manière de procéder. Alors, ce qu'on appelle description d'un objet, en fait, c'est ça qu'on appelle un modèle, c'est un modèle descriptif. Autrement dit, un linguiste, il ne décrit pas la langue française telle qu'elle existe, telle qu'on la parle, il se crée un modèle. Un historien, il ne décrit pas l'histoire telle qu'elle s'est faite, hein. Il crée un schéma, un modèle. Hein. Un sociologue, il ne décrit pas non plus une société comme la société française, il se crée un modèle. Donc, effectivement, derrière chaque description, il y a déjà des théories explicites, ou bien aussi des idées préconçues, ou bien encore des intuitions, des petits coups qui arrivent, enfin, et qui vous guettent, enfin, et qui vous guident dans votre description. Donc, c'est la description qui donne ce qu'on appelle un schéma au sens kantien, donc d'Immanuel Kant, c'est le philosophe allemand, ou bien encore ce qu'on appelle maintenant un modèle descriptif. Alors, dans la description, naturellement, il y a un problème tout à fait particulier et tout à fait important qui se pose. On ne peut décrire des objets que si on connaît déjà les régularités, des constantes, comme on s'est dit. Il y a donc des lois. Donc, autrement dit, toute activité descriptive, avant tout, est orientée vers la découverte des constantes, des régularités, des normes, des lois, etc. Donc, finalement, comme en linguistique, on essaie de trouver une grammaire universelle, on essaie de trouver en narratologie des grammaires universelles au sens narratif du terme, on essaie de trouver des lois historiques, on essaie de trouver des lois sociologiques ou autres. Une fois ces lois ou ces régularités, ou encore, comme Mourazi dit, les constantes découvertes, se pose un autre problème qui est extrêmement compliqué. Ces constantes-là sont en fait des constantes descriptives, empiriques, qui renvoient à l'objet que j'ai analysé. Mais en même temps, pour pouvoir expliquer et pour pouvoir aussi décrire de manière explicite ces constantes et ces régularités, il me faut un langage formel. Donc il me faut ce qu'on appelle une sorte de mathématique, mais au sens large du terme. Et donc finalement, c'est ici le passage, si vous voulez, de la modélisation descriptive à la modélisation formelle. Cette sorte de traduction du contenu, de la sémantique d'une constante ou d'un ensemble de constantes en un langage formel. La question se pose, mais pourquoi finalement on veut absolument travailler avec les mathématiques ou avec le langage formel, puisque finalement rien ne s'impose? C'est très simple, puisque finalement ce sont les langages formels, normalement, qui doivent nous déterminer les contraintes qui pèsent sur les constantes et les régularités, et les contraintes sur les interactions entre les constantes et les régularités. Autrement dit, avec une mathématisation bien faite d'une description, je peux faire ce qu'on appelle des prédictions, des déductions, des inférences, je peux jouer, je peux faire des simulations, comme on fait maintenant en informatique, par exemple. Donc, maintenant, pour revenir plus particulièrement à l'œuvre de Mourasset, à mon avis, il faut comprendre que cette œuvre se situe dans un grand courant, c'est le courant structuraliste, Le structuralisme en sciences humaines, c'est-à-dire donc le structuralisme en anthropologie de Lévi-Strauss, enfin en linguistique de Jacobson, en psychologie de Piaget, etc. C'est donc un grand, grand mouvement de méthodes, de méthodologies, de réflexions théoriques sur les sciences humaines, sur le statut des sciences humaines et sur l'objet en sciences humaines. Alors, c'est donc M. Mouraset, Charles Mouraset, se situe dans ce grand courant-là. Il faut maintenant comprendre que ce mouvement du structuralisme, il est partagé, il est divisé, d'une certaine façon, d'un point de vue formel. Il y a d'une part des tenants d'un structuralisme, ce qu'on appelle logico-algébrique, et d'autre part, il y a des tenants d'un structuralisme qu'on appelle géométrique-topologique. C'est vrai que ce que tu dis, c'est plutôt une vision de sciences humaines, mais disons, restons un peu disons, sur ce niveau-là. Pourquoi, finalement, cette coupure, enfin, c'est très difficile à expliquer en quelques mots, mais uniquement pour dire, les uns, ils pensent que, en fait, la pensée ou la capacité de connaître de l'homme, c'est une sorte d'un ensemble de symboles abstraits qui se greffent sur le réel. Par contre, finalement, ceux qui sont plutôt côté géométrique-topologique, enfin, ils pensent que, en fait, la pensée est imprégnée, d'une certaine façon, par des formes naturelles qui viennent de notre espace perceptivo visuel et de notre écologie, et finalement, cette forme, en dernière instance, sont des formes géométriques, disons au sens pré-géométrique, disons pré-mathématique du terme. Donc, Charles Mouraset a donc, en fait, en apparence, choisi ce deuxième paradigme, à mon avis, ce paradigme topologico-géométrique, mais ce qui est vrai aussi, et ce qui est sorti un peu ici dans cette discussion, c'est une sorte d'une modélisation qui est géométrique ou analytique, ça veut dire qui, en fait, intègre des composants logico-algébrique. Enfin bon, c'est un peu abstrait. Ceci dit, pour résumer, donc, l'activité de Charles Mouraset, il faut le comprendre, à mon avis, est comme ça. C'est un travail d'historien, c'est-à-dire donc, au début, il y a une grande activité descriptive, n'est-ce pas, qui porte sur des objets très divers, enfin, sur des mythes, comme par exemple le mythe de Saint-Georges, enfin, la légende de Saint-Georges.
L'allégorie.
La légende de Persée. Ça porte enfin, sur les Vikings, enfin, ça porte sur énormément d'objets différents. Et donc, c'est une description de ces œuvres-là, de ces corpus, et dans une deuxième étape, exhiber, isoler des constantes à travers les changements historiques, n'est-ce pas ? Si on commence avec des mythes égyptiennes et si on s'arrête avec les romans comme Emma Bovary dans le 19e siècle, il est très curieux qu'il y avait d'une part beaucoup de révolutions conceptuelles. Mais en même temps, effectivement, on voit apparaître des constantes, c'est-à-dire des choses qui restent toujours relativement stables, qui ne changent pas, mais en même temps qui déterminent d'une certaine façon cette révolution conceptuelle. Et donc, finalement, c'était ça le deuxième pas chez Charles Mouraset, disons, d'établir, d'élaborer, de sorte, disons, de mettre en place et de définir les constantes, qu'il appelle les constantes, les régularités. Et dans un troisième pas, dans une troisième étape, Mouraset, il a cherché, comme tout chercheur, un langage formel mathématique approprié. Et ce langage formel mathématique approprié, pour lui, c'est en dernière instance la géométrie analytique, hein, d'une certaine façon, et il commence donc là, ici, sa modélisation au sens, disons, formel du terme. Et là, effectivement, dans l'œuvre de Mouraset, il faut encore distinguer, à mon avis, ce qui est aussi tout à fait normal pour tout type de modélisation, on cherche au début des modèles formels très simples. Donc ici, Mouraset a beaucoup insisté que le tétraèdre sur lequel repose sa modélisation, c'est une figure géométrique canonique. Ça veut dire donc, à l'aide de certaines lois de composition, on peut naturellement créer des modèles logiques, mathématiques ou géométriques beaucoup plus complexes. Mais finalement, c'est, je crois, un autre débat finalement pour rentrer plus dans ces questions géométriques, etc. Ma question maintenant seulement, ou mes questions à vous, très brièvement dit, sont les suivantes. Ce qui, pour moi, évidemment, naturellement, encore, qui pose problème, ou, disons, problème dans ce sens que je reste toujours sur ma fin, d'une certaine façon. Premièrement, comment ça se fait que vous avez opté pour les modèles géométriques? Pourquoi pas, finalement, pour des modèles logico-algébriques? Disons, pourquoi pas pour ce paradigme de symbolisme abstrait, qu'on appelle? Comment avez-vous trouvé, en fait, certaine façon, cette intuition de, disons, du langage formel qui est approprié à votre description historique? La deuxième chose, c'est quel est, à votre avis, l'avenir ce type de modélisation, c'est-à-dire quel chemin doit-il prendre? Et finalement, la troisième question, quel est, disons, l'intérêt explicatif, théorique ou pratique de cette modélisation?
Alors, prenons les questions les unes après les autres, assez brièvement. La première, comment je l'ai trouvée? Alors pour moi, c'est très simple. Je vois avec plaisir que l'avenir nous réserve des disputes d'école qui seront certainement très fructueuses. Moi, c'est extrêmement simple. Je me trouvais en présence d'un nombre de faits dont je sentais qu'ils étaient répétitifs, et je cherchais à trouver des modèles, moi je n'appelais pas ça comme ça, mais enfin, de les rapporter analogiquement à des contraintes qui soient, dont les propriétés soient démontrables. Ce qui était le plus simplement démontrable, c'était en effet des propriétés de construction. Démontrées selon la géométrie d'Euclide, si on veut, mais aussi bien par les algèbres les plus modernes. Il y a toutes sortes de manières de trouver les propriétés du trièdre. Je rappelle bien que le code, ce n'est pas le code du tétraèdre. Le code, c'est le code des trièdres. L'objet le plus simple que l'on puisse construire les trièdres, c'est le tétraèdre. C'était ce qu'il y avait de plus facile et ce qui avait été de plus significatif. Par exemple, quand j'ai appliqué ce code à la logique des stoïciens, et notamment à la logique de Chrysippe. C'est un moment où l'école logique, je crois, c'est finlandaise, disait « Attention, la logique des stoïciens, qu'on l'a méconnue pendant plusieurs millénaires, mais c'est la logique des logiques, c'est le fondement de toutes les logiques. J'ai appliqué mon code, ça convient parfaitement. Mon code est transporté. Autrement dit, je pourrais aussi bien définir mon code à partir d'éléments géométriques, comme nous l'avons fait sur ce tableau, parce que c'est plus simple, que d'utiliser des signes logiques, et où je retrouverai les indémontrables de Chrysippe. C'est la même chose. Comme on dit chez vous, c'est biunivoque. On peut traduire l'un par l'autre ou l'autre par l'un. J'en sais autant, pas plus, j'en sais autant que Chrysippe. J'en montre autant que Chrysippe. Je peux l'appliquer, comme tu l'as dit, à toutes sortes de récits de type sacré ou mythologique, et ça marche. Quelle est la portée de tout cela? Elle est extrêmement faible. Elle est très petite. On ne va pas modéliser toute l'histoire. Je ne peux pas modéliser Louis XIV, Napoléon, je ne peux pas modéliser Hitler. Bien sûr que non. L'histoire va demeurer essentiellement une histoire récit. Mais il y a, quand on considère l'histoire en grand, de haut, des moments tournants dans les représentations que les hommes se font de leur destin, dans les représentations qu'on se fait de l'existant. Il y a des grands mouvements tournants à certaines époques, dont, tout de même, il faut bien le dire, la science et notamment les mathématiques donnent le signal, c'est comme ça qu'on les repère le mieux. Et là, à chaque fois, le code apparaît. Puis il disparaît quand tout redevient normal. Je ne sais plus ce qui se passe à ce moment-là. Donc l'histoire n'est pas prédictive. Mais puisque nous parlions d'utilité, ce code a tout de même l'utilité de repérer les grandes époques de l'histoire autrement qu'on ne le faisait. Tout à fait autrement. En se basant non pas sur une chronologie dictée par le calendrier solaire, mais sur une chronologie de caractère logique, sur une chronologie de conception logique. Il va de soi que l'époque actuelle, bon, mon tétraède, est encore un élément, est un modèle imaginaire. Tous les éléments sont droits, ce qui n'existe pas dans un tétraède tel qu'on le construit, et en même temps, ils sont aigus ou obtus. Et alors, tu me posais la question à quoi ça peut servir. Moi, je crois que c'est très, très important pour l'historien. C'est comme ça que j'ai expliqué que les Chinois n'avaient pas inventé de démonstration, que les Indiens avaient réussi admirablement en linguistique et pourtant n'avaient pas été à l'origine des sciences modernes, que les Arabes, qui étaient à l'origine, qui avaient été les héritiers les mieux placés des sciences grecques, n'avait pas introduit de révolution dans ces sciences grecques, qu'il avait fallu attendre, premièrement, l'ère chrétienne, et deuxièmement, dans cette ère chrétienne, l'ère capitaliste. Ceci, je l'explique. Je l'explique. C'est-à-dire qu'il est plus, pour ma part, il est plus compréhensible quand je peux le rapporter à un modèle démontrable que quand simplement je l'affirme.